intermezzo, comme on dit, entre dans cette semaine de festivités, au moment, et ça c'est le bon signe, où les jours rallongent. Et c'est tant mieux, et ça ne va pas s'arrêter. Voilà, au moins jusqu'au 30 juin. Voilà. Et c'est là, ça nous donne le temps d'en profiter. Je vais commencer par des petites nouvelles, d'après avoir salué Yamine, que je remercie pour son intervention, et puis les complices habituels qui sont tous là. Donc Eric, bonjour. Roselyne, bonjour. Habib, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelques petites nouvelles. D'abord, les nouvelles de l'impérialisme indécrottable. Alors, c'est sous la base d'une prestation de M. Boris Johnson, vous le savez, donc Premier ministre britannique, qui s'est permis de dire qu'il était très content que la Grande-Bretagne ait gagné la guerre des Malouines. C'était il y a 1982, vous vous souvenez, et qu'ils allaient continuer, c'est-à-dire il a affirmé « nous sommes là ». Il n'a pas dit par la volonté de Dieu, mais je pense que la pensée y était « et nous resterons hein ». Alors, applaudissements dans la foule, hein, bien sûr pas dans la foule argentine, qui a dit « alors, la façon dont ça a été vendu, la guerre des Malouines, donc, qui s'est terminée par une défaite argentine, avec je crois, presque 500 morts côté argentin, mais quand même 250 côté britannique, ça a été que les Britanniques avaient gagné la guerre contre la dictature ». Alors effectivement, c'est vrai qu'en 1982, il y avait une dictature militaire au pouvoir, et c'est ce qui a permis à Margaret Thatcher de se présenter comme une espèce de démocrate qui venait rétablir un ordre qui avait été malmené par les dictateurs. Ce n'est pas du tout ressenti comme ça en Argentine, et donc la réponse est venue assez vite. Il y a un secrétaire d'État en charge des Malouines et de deux autres petites îles dont l'Argentine revendique la propriété depuis longtemps, qui a dit « mais de toute façon, le droit international est pour nous, vous pouvez toujours raconter toutes vos histoires, on finira par être souverain sur les Malouines ». Ce qui ne veut pas dire qu'on va mettre à la porte les éleveurs de moutons britanniques qui sont là, mais que c'est chez nous, point la ligne. Alors je rappelle que c'est quand même très 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 loin des côtes de la Grande-Bretagne, mais que l'ADN impérial, j'allais dire, de la Grande-Bretagne n'arrive pas à disparaître si facilement. Mais oui, les Argentins s'en occupent. Il fallait rappeler ça. Alors, quant à l'impérialisme menacé, alors une dépêche assez amusante, il paraît qu'on a vu 500 soldats mercenaires russes de la fameuse compagnie Wagner au Mali. Alors, les gens qui regardent un peu, les journalistes qui font leur travail, disent « on n'a pas vu une seule photo ». Ah bon ? Ah bon ? Ben alors, ils sont là, mais on ne les a pas vus. On n'a pas vu d'avion dont ils descendraient. On n'a pas vu de véhicules qui leur appartiennent. Mais ça fait la une de la presse occidentale. Wagner est arrivé. C'est la chevauchée des Valkyries, j'allais dire. Mais zéro photo. Donc, intox, mais ça fait partie de la volonté de dire que l'Occident ne laisse pas la place. L'Occident va continuer à être maître chez lui. Alors, chez lui, le Mali, c'est évidemment pas chez lui. Tout le monde le sait. Dans les restes aussi de l'impérialisme occidental, il faut célébrer un moment qui s'est passé donc en 1991, qui est le début de la destruction de la Yougoslavie. Ça fait partie de notre histoire contemporaine, de l'histoire européenne. Alors, ce qui se passe en 1991, c'est que au milieu de l'année 91, deux morceaux de la Fédération de Yougoslavie, à savoir la Croatie et la Slovénie, proclament unilatéralement leur indépendance. Ils disent, donc, nous, l'État fédéral, on ne connaît plus. Bon. Ça, on peut dire, ils pouvaient toujours le faire. Après, il y avait des processus, d'ailleurs, qui étaient dans la constitution de la fédération, qui permettaient à un membre de la fédération d'en sortir. Ça restait une affaire interne. Et voilà, Tipa, qu'à la fin de la même année 91, une certaine République fédérale allemande, dirigée par un certain Helmut Kohl, reconnaît les deux nouveaux États. Et la Croatie et la Slovénie. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a reconnaissance d'État dans les formes normales, ouverture d'ambassades, échange de diplomates, etc. Et donc, en fait, l'Allemagne a décidé que la Yougoslavie, c'était fini, puisqu'elle reconnaît, alors qu'elle le fait, alors qu'il n'y a pas de décision de l'Union européenne, si ce n'est des réflexions de l'Union européenne. Alors, il faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Mitterrand était président français. Il voit bien que c'est un pas dans un sens qui n'est pas celui souhaité par la France, c'est-à-dire l'Allemagne commence à faire à elle toute seule la politique extérieure de l'Union européenne. Alors, il essaye de temporiser et tout, et puis il va être absorbé totalement par le mouvement. On est aussi dans la même année où on va mettre au point le traité de Maastricht. Donc il y a une espèce d'ambiguïté dans la position française et dans celle de Mitterrand, à la fois freiner cette Allemagne qui manifestement a décidé, je rappelle, le mur de Berlin est tombé, l'URSS a fait faillite, et donc on sent bien que Helmut Kohl est porteur d'une ambition impériale allemande. Mitterrand le sent, mais en même temps, on s'est lié dans le système de Maastricht, qui va être confirmé par le traité de Lisbonne. Donc on a une politique extérieure commune. Donc à partir du moment où le gros de l'opération, la République fédérale allemande, a décidé de reconnaître la Slovénie et la Croatie, on est embarqué dans le mouvement. Ce mouvement va avoir des conséquences redoutables, on le sait, puisque la guerre de Yougoslavie va durer pratiquement 9 ans. Et elle va tout de suite se traduire dans le côté croate et côté slovène par la mise à la porte manu militari, c'est-à-dire le pistolet mitrailleur sur le ventre, de tous les Serbes qui habitaient dans cette région-là de la Fédération de Yougoslavie. Une région qu'on appelait la Krajina. On compte qu'il y a eu 300 ou 400 000 personnes qui ont été mises dehors de leur pays. Ça, c'était les suites de la reconnaissance officielle par la République fédérale allemande. Et puis ensuite, on sait que le combat s'est déplacé sur le théâtre de la Bosnie-Herzégovine, avec donc le fameux siège que tout le monde connaît de Sarajevo, les comédies qui avaient pris de l'ampleur de Bernard-Henri Lévy, hein, à 2 heures d'avion, il y a la sauvagerie à 2 heures d'avion de Paris. La sauvagerie, c'est là où il arrive, d'ailleurs, on a compris maintenant. Bon. Et donc, ça s'est très, très mal passé. Ça a débouché sur des accords. Alors là aussi, c'est ça aussi l'impérialisme à l'état pur. C'est-à-dire que pour arriver à trouver une façon de faire fonctionner un espèce de bâtard hybride qui s'appelle la Fédération Bosnia-Herzégovine-Serbe, enfin tout ça, il a fallu enfermer les dirigeants de ces trois morceaux d'État dans une base militaire aux États-Unis. On leur a dit, vous ne sortirez de là que si vous signez le papier qu'on vous a préparé. C'est ça aussi l'impérialisme. Alors, c'était donc relais américain, états-unien de l'impérialisme allemand. Ce qui fut fait et ce qui a débouché donc sur une espèce d'hybride bizarre qui est cette Bosnie-Herzégovine avec une double commande musulmane et croate, donc catholique, en principe. Et puis, de l'autre côté, une république serbe de la Bosnie-Herzégovine, qu'il ne faut surtout pas faire rattacher à la Serbie qui existe par ailleurs, un ensemble bâtard qui ne tient pas debout. Les Serbes n'ont qu'un souci, c'est de s'en aller de là et de rejoindre leur maison mère, c'est-à-dire se rapprocher de la Serbie. Et l'Occident est paralysé devant une situation qui ne bouge pas, c'est-à-dire que ça ne bouge pas en ce sens que si, ça bouge en ce sens que la plupart des habitants de la Bosnie-Herzégovine fuient la Bosnie-Herzégovine dès qu'ils en ont l'opportunité. C'est tout à fait clair. Et le mélange entre les Croates catholiques et les musulmans donc bosniaques se passe pas bien non plus. Donc on a un ensemble explosif. Alors il n'explose pas, lui, parce qu'il y a cette espèce d'exutoire qui est la fuite, l'exil, etc. Mais les représentants de l'Union européenne qui sont en charge de surveiller le processus savent bien qu'ils ne vont nulle part. Aucune entreprise ne va investir à des endroits pareils, sachant pas du tout ce qui va se passer. Les populations pensent à fuir. Ceux qui restent n'ont plus d'enfants. Voilà, situation de crise. Mais ça, c'est l'abcé yougoslave qui continue et dont on n'a pas encore vu tous les méfaits, puisqu'il s'est ajouté à ça, dernière opération, le bombardement de la Serbie, au moment, donc en 1999, pour séparer le Kosovo de la Serbie. C'était le dernier morceau. Alors, séparer le Kosovo de la Serbie, ça voulait dire d'une part minoriser les Serbes qui habitaient dans cette province de la République serbe et y introduire massivement des musulmans albanais. C'est pas du tout parce qu'ils sont musulmans, mais ils s'y sont conduits de façon inacceptable, c'est-à-dire trafic de drogue, trafic d'organes humains, enfin tout ce qu'on traite des blanches. Enfin, voilà. On a à la tête de l'État, qui n'est pas reconnu du Kosovo, une série de bandits de très grand chemin. Donc la Fédération Yougoslavie a été détruite en 10 ans, systématiquement, parce que la crainte c'était de dire il ne faut pas que ces gens-là qui ont vécu dans un système socialiste un peu particulier qui était le système de l'autogestion yougoslave se mettent à avoir des tentations d'avoir un système encore socialiste. Donc ça c'est à peu près gagné, d'autant plus qu'à cette période-là, il faut se souvenir que la Russie ne donnait pas une image très attirante et que donc on a laissé une vingtaine de millions de personnes sans perspective politique, si ce n'est de se soumettre au désir des États-Unis et de l'Union européenne qui était en ligne. Ça, il fallait le rappeler, je pense que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie y compris de l'histoire de nos migrations, enfin des migrations qui arrivent ici. parce qu'il est venu de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, beaucoup de réfugiés. Ils sont simplement le témoignage de la non-effectivité, de l'inactivité, de la catastrophe politique qui a été organisée systématiquement par l'Union européenne. C'était toujours utile de le faire et puis de resituer ça dans la politique de l'Union européenne qui en fait était d'un contrasté. Mitterrand, jusqu'à son décès, jusqu'à la fin de son mandat, a essayé de ne pas trop se laisser manger par la République fédérale allemande. Mais il faut bien le comprendre, et ça c'est tout à fait d'actualité, qu'à partir du moment où la République fédérale allemande était réunifiée, qu'il avait été accepté par tout le monde, que la RDA devait être mangée, et elle a été mangée, mais alors jusqu'au bout, jusqu'au dernier, à la dernière usine et tout, et donc qu'on avait affaire à un pays puissant, qui était le maître de l'Europe, enfin, au moins dominant en matière économique, qui était dominant en matière politique, hein, et qui donc avait des ambitions qu'il a aujourd'hui et qui conserve. Alors, la meilleure preuve étant que l'équipe gouvernementale actuelle, la nouvelle, celle qu'on appelle, je crois, ils ont donné un nom avec, oui, c'est une composante rouge, orange, vert, bon, ils appellent ça le feu de signalisation. Bon, la seule chose à signaler, c'est qu'on a affaire à une équipe impérialiste dominante qui est dramatiquement anti-russe, au moins pour sa composante de la ministre des Affaires étrangères, qui est une verte allemande, mais qui s'inscrit, elle, dans les pas dramatiques d'un certain Joschka Fischer, je rappelle le nom, Joschka Fischer, ministre vert des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Helmut Kohl, qui a été l'organisateur et l'exécutant de cette politique de découpage de la Yougoslavie en petits morceaux. Donc on a des verts qui sont militaristes, impérialistes, méprisant les cultures des autres, voilà, il faut savoir, et donc ils reviennent au pouvoir dans cette alliance bizarre avec des sociaux-démocrates, lesquels sociaux-démocrates sont, j'ose le dire, plus proches des États-Unis que l'était même Angela Merkel. Donc c'est le gouvernement allemand que nous avons au menu pour les mois qui viennent. Ensuite, des petites nouvelles d'ici et là. Alors, les bonnes nouvelles, puis je rattacherai ça à Desmond Tutu, enfin les bonnes nouvelles, les très mauvaises nouvelles, c'est que le nouvel gouvernement israélien a décidé de doubler le nombre des colons israéliens sur les terres syriennes du Golan. Donc, continuer à mettre le feu systématiquement comme ils le font. Tout à fait, voilà. Donc on a affaire à un gouvernement israélien, bon, on le savait, ce n'est pas une surprise, mais qui est décidé à aller jusqu'au bout, y compris, alors annoncer qu'il va bombarder l'Iran, ça on en reparlera, parce qu'il faut quand même dire que ces derniers jours, l'Iran a envoyé un certain nombre de missiles qui sont arrivés à destination sur des installations secondaires du nucléaire israélien, toujours dans le désert du Negev, mais pas sur Dimona, qui est la grosse base, mais sur une autre installation, considérée comme secrète, d'ailleurs, qu'il était patent apparemment pour les services de renseignement iraniens. Donc l'Iran a manifesté qu'elle ne le laisserait pas faire. C'est tout à fait clair de ce point de vue-là. Puisque j'en suis dans ces choses-là de bombardement, je voulais signaler que la Corée du Sud est en train de devenir un pays inquiétant. Faire plaisir à Eric. La Corée du Sud est en train de devenir un pays inquiétant parce que d'une part, ça vous le constatez quand vous jouez avec votre téléphone portable ou quand vous achetez une voiture qui peut être d'origine sud-coréenne. La capacité, le niveau de la technologie de l'industrie sud-coréenne est un des plus élevés du monde. Bon, ça, il faut en être conscient. Alors, ça pourrait se traduire de différentes façons, mais ça s'est traduit, donc, c'était au cours du mois de décembre ou fin novembre, par l'envoi d'un missile mer-sol, hein, donc un missile tiré depuis un sous-marin de construction sud-coréenne sur une cible terrestre. Ce sous-marin lui-même est un sous-marin qui est dérivé d'un modèle allemand que l'Allemagne a gentiment vendu, parce qu'il faut toujours faire des affaires, que les Coréens ont amélioré, et la Corée est aujourd'hui capable de faire des sous-marins qui fonctionnent avec des piles électriques, donc qui ne font pas d'émissions ou quoi que ce soit derrière eux, et de tirer des missiles qu'elles tirent donc depuis le sous-marin vers une cible terrestre. Ce qui veut dire que s'ils décidaient de mettre autre chose qu'un missile qu'ils ont d'ailleurs, qu'ils savent faire, puisque là ils ont une grosse capacité, y compris une capacité astronautique non nulle, ils pourraient tirer autre chose que des missiles sans tête nucléaire. On n'en est pas tout à fait là, mais c'est très intéressant de noter, c'est-à-dire que le niveau technologique de la Corée du Sud en fait... Alors, il y a des classements de la puissance militaire qui sont faits par des organismes avec des quantités de critères. Je ne rentre pas dans ce détail, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, du point de vue de la puissance militaire, de la capacité d'action, donc la maîtrise de toutes ces technologies, information, communication, etc., la Corée du Sud est devant la France et la cinquième puissance mondiale. Pas en termes de nombre de soldats, mais en termes de capacité militaire. C'est ce qu'on peut faire à partir de 30-40 millions d'habitants, et c'est moyen de très très haut niveau. C'est-à-dire qu'on a, et là, je pense que les États-Unis ne sont pas innocents du tout, ils ont donné à la Corée du Sud toutes les facilités pour aller sur ce chemin-là, et aujourd'hui, la Corée du Sud, comme je pense, on pense la même chose à Berlin, est en train de se dire, ils nous ont laissé faire, mais maintenant on est grand. Et comme en plus ils ont de l'autre côté de la ligne d'armistice de Panmunjom un régime qu'ils n'aiment pas, on ne les arrêtera pas. Mais il faut noter donc cette capacité d'autonomie, pas stratégique, hein, ils ne vont pas se fâcher avec les États-Unis, mais ils sont capables de dire, de toute façon vous pouvez nous menacer de tout ce que vous voulez, nous on est capable de faire ce qu'on veut du point de vue militaire. Ce qui change totalement la donne dans cette zone-là du monde. Ce qui complique peut-être, c'est mon rêve, c'est peut-être notre rêve à tous, qu'un jour la Corée soit réunifiée, mais ça va être compliqué, puisqu'effectivement, la Corée du Sud s'est dotée d'une capacité militaire remarquable qui n'est pas, à laquelle la capacité de la Corée du Nord ne fait pas d'ombre, c'est tout à fait clair. La seule différence étant la possession de l'arme nucléaire d'un côté et la non-possession de l'arme nucléaire coréenne du côté du Sud. C'est la seule différence. Les capacités techniques sont à niveau. Ce qui m'amène au raisonnement positif que j'ai déjà tenu à ce micro, c'est-à-dire que si on rassemblait intelligemment les deux moitiés de la péninsule, on a affaire à une puissance de pointe, avec une civilisation propre, sa langue propre, enfin, le discours est connu, mais il mérite toujours d'être rappelé. Seulement là aussi, alors je pense à l'Allemagne en partant de la Corée du Sud, parce qu'ils mènent leur chemin pour dire, bon, on est encore du côté des Américains, mais on est des grands garçons maintenant, on sait faire beaucoup de choses, hein, tout seul. Parce qu'ils ont démarré, je veux dire, avec un sous-marin de type allemand, ils l'ont agrandi, ils l'ont mis un moteur un peu différent, il a toutes les technologies de l'informatique contemporaine, etc. Et ça, avec les Samsung et autres, ils savent faire. Donc, ils sont très, très bons. Et ils vont peut-être même faire de l'ombre à des exportateurs de sous-marins. Bon, ça, je ne veux pas faire de la peine au Naval Group français, mais pour l'instant, ils se sont fabriqués un sous-marin de ce type-là. Il y en aura d'autres. Ils ont la capacité. Il y a une industrie sidérurgique, ils ont des métaux pointus. Enfin, tout ça, ils savent faire. Donc, à surveiller de près la Corée du Sud dans ses développements. Ensuite, le président Poutine, comme il a fait tous les ans, il a fait une conférence de presse de fin d'année qui est une espèce à la fois de bilan et puis d'annonce des activités à venir. Alors, il faut comparer, alors, c'est un peu méchant à la limite de dire, il faut comparer une conférence de presse de Biden à une de Poutine. Alors, une conférence de presse de Poutine, c'est 4 heures. C'est 4 heures, il répond à tous les sujets. Alors, En tant que pédagogue, on me pose une question, j'essaie d'expliquer le dossier, comment il est, pourquoi on a fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça, etc. Il explique sa politique, qu'on peut critiquer après, mais il dit voilà pourquoi on fait ça, il y a tel et tel objectif, on va y arriver pour telle et telle raison. Bon. J'oppose ça, et c'est un peu un jeu facile à la limite, c'est du massacre au guignol. Biden qu'on sort pour dire trois phrases qu'il lit sur un prompteur, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais on a affaire à un chef d'État qui maîtrise son dossier, quoi qu'on pense de certains aspects de sa politique. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit énormément de choses, y compris sur la situation interne. Vous imaginez que les Russes veulent savoir où est le pays. Alors, il a parlé surtout des futures négociations entre les États-Unis et la Russie. Et il a dit, alors je vous rappelle les données, donc le ministre des Affaires étrangères de Russie met en circulation un document qui est un projet de traité de paix entre la Russie et les États-Unis. Et il le rend public. Traité de paix qui, alors, pose aux États-Unis de gros problèmes, parce qu'il dit d'une part, aucun pays qui sont aujourd'hui à la frontière de la Russie, sauf ceux qui sont déjà dans l'OTAN, je parlais des trois républiques baltes, ne rentrera dans l'OTAN. À quoi M. Stoltenberg a répliqué « Mais on fera ce qu'on voudra ». Et Lavrov a dit « De toute façon, c'est un imbécile, ça n'a pas d'importance bon. ». Bon, ça, c'est des petits détails. Mais ça, c'est la première donnée. Donc, aucun pays, donc ça veut dire l'Ukraine ne rentrera pas dans la dans l'OTAN, l'Arménie ne rentrera pas dans l'OTAN, la Géorgie ne rentrera pas dans l'OTAN, l'Azerbaïdjan ne rentrera pas dans l'OTAN, que les choses soient bien claires. Hein, la limite de l'OTAN, c'est la frontière turque actuelle, et c'est la frontière de la Pologne et des Trois Républiques. C'est tout, c'est tout. C'est ça qu'il y a dans le projet de traité de paix. Deuxième aspect, c'est là c'est encore plus sévère vis-à-vis de l'impérialisme États-Unis. Aucune arme nucléaire de l'un ou de l'autre des deux signataires ne doit se situer hors du territoire du signataire. Écoutez bien ça. Aucune arme nucléaire appartenant à l'un ou à l'autre des deux éventuels signataires ne doit se situer à l'extérieur du territoire. Ça veut dire, à M. Biden, vous avez des bombes atomiques, mais vous les mettez chez vous. Si vous êtes menacé, vous en servez, c'est votre droit dont on userait, nous, à la rigueur. Mais c'est tout. Mais on ne veut pas avoir vos armes, y compris les plus avancées technologiquement, traînées en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, probablement maintenant en Turquie, maintenant peut-être probablement en Pologne. Non, ça c'est non. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait, nous, de la même façon, souvenez-vous, alors, petit rappel historique, quand on a mis des armes nucléaires soviétiques à Cuba, est-ce que vous vous souvenez l'état de transe dans lequel vous étiez, hein? Bon, eh bien, c'est le même problème. Pourquoi nous, on serait tranquille? Non, on va être tranquille chez nous. On ne vous menace pas. Hein? C'est tout. Alors, c'est ça le message. Alors, il y a eu, aux États-Unis, c'est assez intéressant à suivre, des réactions diverses. Alors, il y a des gens qui nient. Tout ça, c'est du bluff, ils nous font peur, etc. Poutine est un menteur, etc. Et puis, il y a des gens qui, quand même, disent il faut essayer de discuter, parce que là, on a quand même manifestement une infériorité militaire qui est en train de se concrétiser à travers les missiles hypersoniques, etc. Et donc, en fait, et c'est là l'important, parce que tout le reste, c'est de l'écume médiatique, c'est que la semaine prochaine, les négociations vont commencer. Hein? Ce qui ne veut pas dire que les États-Unis vont dire « on signe ». Évidemment, non. Mais ça veut dire qu'ils acceptent que ces questions-là soient posées. C'est-à-dire que, y compris, alors, voyez pour le reste de l'Union européenne, bon, la France n'est pas concernée, mais tous les membres de l'Union européenne devraient renvoyer les bombes atomiques des États-Unis qu'ils ont sur leur territoire chez l'envoyeur. Non, mais ce n'est pas pour nous. Et je sais que ça aurait un écho, je pense en particulier aux Italiens, où il y a tout un mouvement citoyen de protestation. Mais qu'est-ce que c'est, hein? En fait, et la position russe fait comprendre à ces Européens-là, donc d'Europe, d'Italie, d'Allemagne et tout, qu'au fond, s'il y avait, par erreur, un échange de tirs nucléaires entre les forces des États-Unis et la Russie, le champ de bataille, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est pas les États-Unis. Et c'est là, donc, la position russe est très, très forte. Ils disent, mais de toute façon, on vous touchera, vous. On sait le faire. Hein. Alors, je rappelle qu'en plus, le détroit de Bering, ça fait 30 km. Hein. Bon, alors, le détroit de Bering, vous savez, c'est le détroit qui sépare la Russie de l'extrême-est de l'Alaska, territoire des États-Unis. Hein. Donc, ils ne sont pas si loin que ça de l'objectif. Et puis, ils ont des sous-marins qui peuvent aller un peu partout. Et puis, des missiles hypersoniques qui peuvent faire le tour de la Terre en quelques minutes. Donc, effectivement, les conditions du dialogue existent. Hein? Bien que alors, l'appareil militaire et propagandiste des États-Unis ne supporte pas qu'il y ait un dialogue. Mais nécessaire, il est nécessaire qu'il y en ait un, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Alors, ça amène à des réflexions bizarres, parce qu'aux États-Unis, vous savez que les États-Unis ont ce caractère particulier qu'ils sont toujours en campagne électorale. Une espèce d'hystérie électoraliste. Hein. Alors, on passe des mid-termes, hein, et puis dès qu'on est déjà en train de parler de qui sera le candidat démocrate en 2024. Voilà. Et alors, très étonnant, parce que Biden était arrivé en disant, et on lui avait fait dire, ou il l'avait dit vraiment, je ne sais pas, « Oh, mais vu mon âge, je fais un mandat, je fais la transition, on s'est débarrassé de Trump, maintenant, voilà, je suis le bon papa qui a calmé le jeu. » Et il commence à dire autre chose. Il commence à dire « Mais je me sens pas mal, pourquoi pas ?» Et à ce moment-là, on revoit sortir l'hydre, alors je dis l'hydre, Hillary Clinton. Alors, il y a aujourd'hui des démocrates qui disent « Ah ben, c'est Hillary Clinton qui peut garder la Maison-Blanche en 2024 ». Alors, avec tout ce que ça suppose, hein, Hillary Clinton, hein, souvenez-vous, la Libye, Kadhafi, on est venu, on a vu, il est mort, etc. Bon, ça, c'est de l'Hillary Clinton tout pur. Bon. Donc, ils sont pas bien. Deuxième difficulté, Trump, qui devait débarquer du Parti républicain, n'est pas du tout débarqué du Parti républicain, est en train de se préparer lui aussi à une nouvelle course à la présidence à laquelle il a droit, puisque ça serait son deuxième mandat éventuel. Donc on a une extrême fébrilité de la classe politique aux États-Unis. qui s'accompagne, et ce n'est pas complètement indifférent, d'une extrême profondeur de la crise sociale et industrielle. C'est-à-dire qu'il y a partout, à un niveau pas atteint depuis très très longtemps, des grèves dans des grosses entreprises, alors qui se font sur, à la fois sur les questions sanitaires, sur les non-vaccinations, sur le non-équipement, les non-protections des gens qui travaillent, etc. Et puis sur le fait que les salaires ne bougent pas et que les prix montent. Alors les prix montent comme ils montent dans d'autres pays, puisqu'en fait, là, comme en Europe, c'est un peu moins sensible en France, mais ça pourrait le devenir dans cette année 2022. C'est-à-dire que le fait de distribuer de l'argent sans contrepartie, que ce soit via la Fed ou via la Banque Centrale Européenne, à un moment donné, engendre nécessairement de l'inflation. Donc, ce n'est pas encore très, très fort en France, mais ça va probablement venir. Et aux États-Unis, c'est sensible. On est à 6% d'inflation pour l'année 2021. Ça se sent dans des budgets de familles qui, eux, n'ont pas beaucoup bougé. Hein, parce qu'il y a de grosses revendications salariales, toute une série de conflits. Donc, on a crise sociale, crise politique qui n'est pas résolue depuis le départ de Trump, qui se poursuit. Les démocrates trouvent que... Alors, les électeurs, disons, de gauche démocrate qui pensaient que Biden allait prendre des mesures sociales sont déçus. Hein. Et puis, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut se débarrasser de lui et il faut mettre quelqu'un de plus batailleur. Mais de plus batailleur, de plus guerrier. Donc, c'est l'hypothèse Hillary Clinton. Donc, on n'a pas fini d'en reparler. Ceci m'amène à vous parler. Alors, de quoi je voulais. Ah oui, je finis sur les États-Unis parce que vous allez voir, c'est presque drôle. Il y a dans les services de renseignement des États-Unis un monsieur qui s'appelle le coordinateur des services secrets. Alors, services secrets parce que tout le monde connaît la CIA, mais il y a l'équivalent chez les militaires, la DIA, il y a des services pour les télécommunications, il n'y a pas qu'un service secret. La CIA, c'est une espèce d'image facile, mais en fait, il y a beaucoup d'autres services. Et donc, il y a un coordonnateur de tous ces services-là. Et il a fait le point sur l'utilisation de l'argent qui a été distribué pour animer l'économie par rapport à la pandémie, comme ça a été fait en France, aide aux entreprises pour qu'elles ne ferment pas, pour que l'activité continue un minimum. Et il vient de sortir un document dans lequel il dit que ces aides de l'État fédéral, donc, il y a 100 milliards de dollars qui sont partis dans la nature, qui ne sont pas arrivés jusqu'aux entreprises et surtout pas dans les poches des chômeurs. Et il ajoute, à la fin de ce document, c'est ça l'ampleur des dégâts. Et il ajoute, mais je ne sais pas comment y mettre fin. Voilà. Alors, donc voilà, on a une autre vision de l'économie des États-Unis, c'est-à-dire les grosses entreprises ont encaissé, et puis elles ont fait ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire elles ont fait monter les cours de bourse, elles ont racheté leurs concurrents, des choses comme ça. Elles n'ont pas du tout fait dans le social, et leur personnel est en grève. Bon. Enfin, pas en toutes, mais beaucoup. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais le taux de grévistes sur le territoire des États-Unis est un des plus élevés depuis ces 20 dernières années. Ça fait partie aussi du contexte général. Voilà. Et je voulais en venir, alors pour faire une petite coupure musicale, à vous parler d'un certain archevêque qui s'appelait M. Desmond Tutu et qui est décédé il y a quelques jours en Afrique du Sud, dont il était un citoyen éminent. Alors, je rappelle le personnage, donc il est mort à 90 ans. Il était un peu à l'écart de l'activité parce que depuis qu'il avait 80 ans, il avait été assez malade, fatigué et tout. Enfin, il était là et il a donc continué à vivre pendant une dizaine d'années, mais assez retiré du champ politique. Ce monsieur Desmond Tutu, tout le monde le sait, a eu le prix Nobel de la paix et il a œuvré d'une part pour la fin de l'apartheid, il a tout à fait compris ce que c'était, et il a aussi été l'inventeur de ce qu'on a appelé les commissions justice et réconciliation, qui consistait à dire, bon, l'apartheid c'est fini, mais il n'y aura pas de vengeance des Noirs sur les Blancs. C'était son choix. Et donc, on va dire, et on va faire dire à tous les Blancs qui se sont livrés à des activités racistes, hein, de dire ben, comment ils l'ont fait, contre qui ils l'ont fait, et de reconnaître leur tort devant témoins. Bon. Sans suite, sans pénalité. C'est-à-dire, vous alliez dire, effectivement, j'ai liquidé trois Noirs qui sortaient d'un autobus pour les Blancs, des choses comme ça. Vous n'alliez pas en prison. Okay, je l'ai fait. Et vous le faisiez devant témoins. C'est-à-dire, j'ai fait des horreurs. Hein, je le dis. Parce que mon gouvernement me laissait faire, je n'avais pas de poursuite et tout. Bon, c'était ça, la commission de justice et réconciliation. Alors le modèle, parce qu'il faut lui reconnaître la paternité de ce modèle, a été utilisé ailleurs. mais il n'est pas toujours facile à appliquer. Et quelquefois, ceux qui ont les mains très très sales se disent « Ah ben là, on va s'en tirer, hein, on n'ira pas finir nos jours en prison, on va dire qu'on a fait 3-4 trucs, hein, quitte à... » Et puis il n'y avait pas beaucoup d'enquêtes judiciaires derrière, alors on pouvait appeler un petit forfait, alors qu'on en avait commis beaucoup plus, ça passait. Tout ça est bien, c'est-à-dire il n'y a pas eu de bain de sang en Afrique du Sud, il n'y a pas eu une liquidation et des règlements de compte massifs dans les rues, mais, c'est là que je mets un mais, et Desmond Tutu, il n'est pas pour grand-chose, la réalité des rapports de classe en Afrique du Sud fait que les Noirs ne sont pas beaucoup plus heureux, à part quelques milliardaires noirs, qu'ils n'étaient du temps de l'apartheid. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté de circuler, d'aller dans les autobus, etc. Mais au niveau des conditions sociales, au niveau des conditions sanitaires en particulier, au niveau des conditions salariales, le rapport de classe est principalement un rapport de race. C'est ça qui reste vrai. Donc j'enlève rien à Desmond Tutu, le bain de sang n'a pas eu lieu, mais les rapports d'exploitation capitaliste sont maintenus sur une base raciale. C'est tout à fait clair dans la situation de l'Afrique du Sud actuelle. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Desmond Tutu, qui avait vécu l'apartheid et qui l'avait critiqué à juste titre, n'a jamais raté une occasion, ce qui n'est pas beaucoup dit ces jours-ci dans les informations télévisées, qu'il avait rappelé que l'apartheid continuait dans un autre pays du monde après qu'il ait cessé sur le territoire de la République sud-africaine, ce territoire s'appelant la République d'Israël. Et ça, ces condamnations... ont été tout à fait clairs en disant « mais c'est exactement la même chose ». Et donc l'apartheid israélien, il l'a condamné autant de fois que nécessaire. Ça, on l'a un peu moins dit.
Voilà, c'est important.
Voilà, et oui, c'est ça, parce que là, il a été très clair en disant « mais moi, je sais de quoi je parle ». Il est même allé le dire lui-même en Israël, où on l'a laissé dire, parce que c'est passé dans la masse des événements médiatiques. Mais il l'a dit, donc je rappelle qu'il l'a dit, et qu'il fallait que ce fût dit, qu'il a bien dit Israël continue une politique d'apartheid, qui est exactement la même que celle dont les Noirs ont souffert en Afrique du Sud, et donc il faut y mettre un terme. Alors, termine là-dessus, c'est hommage, il a dit qu'il fallait y mettre un terme, évidemment, il faut y mettre un terme, c'est parfaitement clair. Et en particulier, éviter que les Israéliens se mettent à bombarder les Iraniens ou le Hezbollah libanais ou autre. Ce que pas, je ne suis pas du tout sûr, à mon avis, il y a une grosse agitation israélienne là-dessus, sur il ne faut pas négocier avec l'Iran, etc. Mais je pense qu'ils se sentent un peu moins costauds qu'ils n'ont été à une période. D'où les excès de dire on va coloniser encore plus le Golan.
Avant, ils étaient vachement offensifs.
Voilà, là, ils sont.
Et maintenant, ils sont sur la défense.
Ils sont sur la défensive.
Exact.
Tout à fait. Voilà. Alors, pour en finir avec Desmond Tutu, on va entendre un petit morceau qui est joué par un groupe basque qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelait Cortatu, et c'est un morceau dans lequel on parle de Desmond Tutu. Cortatu, voilà, on écoute.
It's a long time now since we first recorded this song. And down in South Africa, everything is still wrong. Botha's death officers executing innocent, treating black men like cattle, slaughtering them in bloodbath streets where there's no joy but anger, clenched fists, red eyes. Rumors are spreading black irony about Mandela's being finally liberated while he's in a hospital after life in a cell. That's why this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu don't free no generation. His word has not come true, no senseless revelation. He's got his Nobel Prize for a partial solution where real fighters are under persecution.
Red Sudafrika!
I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who have never come down.
Y es verdad, pero no sé qué pasa. Por la República Sudafricana, Nelson Mandela está en Terreca y ha concedido en pleno 90 la paz.
Oh,
qui date donc des années 80, puisque le groupe Cortatu, je crois, a vécu 3 ou 4 ans, et il s'est dissous après, mais il y avait une introduction qui redisait, en gros, en substance, ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que l'apartheid a été terminé, mais que le rapport de classe a été maintenu sur des bases raciales, principalement, même si ce sont des milliardaires sud-africains qui sont à la tête de l'ANC, ce qui pose des problèmes à l'ANC elle-même, hein, parce que sa base de classe n'est plus aussi disponible qu'elle a pu l'être. Et je vais vous parler un petit peu de la Chine. Alors, l'idée m'en a été donnée par un article qui est paru dans un quotidien italien qui dit « Les salaires chinois, ah, mais si on les avait, nous, ça serait pas mal. » Oh là là, ils exagèrent. Alors, peut-être pas tant que ça, parce que c'est un article bien renseigné et qui dit « Ben voilà, il y a des salaires chinois qu'on connaît puisqu'on transforme le yuan en euros. » Et il dit « Voilà, aujourd'hui, quasi la totalité du territoire, un ouvrier gagne net 580 euros et un employé 1080 euros. » Bon, alors il dit « Mais par ailleurs, le ticket de métro à Pékin ou à Shanghai est à 0,69 euros. La facture d'électricité, de gaz et d'eau s'élève à 24 euros par mois. » Vous entendez, à 24 euros par mois, parce que réseau nationalisé, etc., est fort sur les prix. Bon. Et il ajoute, et c'est là que je voulais en venir, bon, effectivement, par rapport, alors c'est écrit par des gens qui sont des précaires en Italie, donc petit boulot, au jour le jour, etc., disent, on dit que les salaires chinois sont écrasés, mais après tout, nous, on ne gagne pas beaucoup plus quand on arrive à gagner quelque chose. Et il en vient à donner des détails dans cet article sur les cotisations sociales et sur le système de sécurité sociale chinois. Et c'est là-dessus que je voulais en venir. Parce qu'on a des idées très floues, voire pas d'idées du tout. On dit main-d'œuvre surexploitée, etc. On ne sait pas comment ça fonctionne. Alors on dit ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors la Chine populaire ne s'est pas mise tout de suite à faire un système de sécurité sociale générale pour 1,4 milliard d'habitants, je précise. Ils ont petit à petit, alors le mouvement a duré en gros la décennie qui vient de entre 2008 et maintenant, hein, où ils ont décidé à ce moment-là de généraliser un système de sécurité sociale comprenant tout, c'est-à-dire le système de retraite, la couverture santé-maladie, le système d'assurance chômage, il y a un système d'assurance chômage, les aides au logement, comme l'APL chez nous aux allocations familiales. Et tout ça fait qu'il y a aujourd'hui, pour un salarié chinois, il y en a beaucoup, un système de salaire net avec des cotisations salariales et des cotisations de l'employeur. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à notre système, à nous. C'est la sécurité sociale à la française, d'une certaine façon. Et ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que là, c'est un témoignage personnel que je livre aux auditeurs. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de discuter avec des cadres de haut niveau de la sécurité sociale qui, il y a une dizaine d'années, allaient fréquemment en Chine populaire où ils avaient des consultations sur notre... On les interrogeait sur comment ça fonctionnait, le système de sécurité sociale français. Et donc, ils disaient, c'est un bloc, il y a tout dans le système de sécurité sociale. C'est vrai que nous, après, on a divisé qu'est-ce allocation familiale, qu'est-ce maladie, qu'est-ce vieillesse, etc. Mais eux, ils ont fait un système intégré. Mais en fait, j'allais dire, pour simplifier, en parlant avant l'émission, ils ont fait du croisat bien après nous. Mais ils ont pris le meilleur de nos idées, des idées des communistes français en 1946-47. Ce qui amène aujourd'hui donc à un système général qu'ils ont étendu à tout le pays. Alors, il y a eu je passe sur la progression entre 2008 et maintenant. Ils ont étendu zone par zone. Ils sont passés à la campagne dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, tout le monde est couvert par le système de sécurité sociale chinois. Et puis, il y a bien entendu, comme dans notre système à nous, des cotisations salariales, donc la différence entre le brut et le net, ce que vous connaissez tous, et puis des cotisations patronales, alors qui sont plus élevées. Ce n'est pas moitié-moitié. Hein. J'ai les chiffres là qui sont dans l'article. C'est 70% de cotisation patronale et 30% de cotisation salariale. Donc les patrons payent largement pour la retraite, pour le logement, pour la maladie. Et tout ça donne un système qui fonctionne, avec des différences quand même sur le système hospitalier, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les facultés de médecine chinoise, je ne sais pas si c'est le titre exact qu'il faut leur donner, fabriquent en gros ce qu'on appelle nous un généraliste. Sur 100 médecins qui sortent des facultés chinoises, il y a 94% de spécialistes et 6% de généralistes. C'est-à-dire que la médecine à laquelle on est habitué, mais qui est une médecine libéralo-socialisée, qui n'a jamais osé s'en prendre compte tenu de classe de la médecine libérale, ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de médecin de ville, ça n'existe pas. Vous allez à l'hôpital, et comme là, vous avez les spécialistes de toutes les maladies, vous trouvez le spécialiste qui vous va. Alors, je ne veux pas trop embellir la chose. Il y a aussi un département VIP où vous pouvez aller un peu plus vite. Ça, c'est vrai. Mais de toute façon, aujourd'hui, tout citoyen chinois est couvert par ce système. Il va à l'hôpital, que ce soit pour une maladie de cœur, pour une maladie de la peau, et il va trouver sur place les spécialistes. Il n'y a plus une espèce de reste de médecine libérale, comme on l'entend.
Le type de médecine ? Je veux dire, les acupuncteurs...
J'allais ajouter que dans les préconisations de ces spécialistes-là, il y a toujours le choix entre la médecine traditionnelle et la médecine dite occidentale. Donc la médecine des labos, pour faire simple. Donc ils ont dit, nous, on avait un acquis, pourquoi pas, on le garde, si ça peut marcher, ça marche. Si le patient s'en trouve mieux et qu'il préfère, on essaye. Donc il y a toujours le choix dans la préconisation de l'un ou l'autre des systèmes thérapeutiques. Voilà ce que je voulais dire sur la sécurité sociale chinoise. C'était pour un peu, ça fait partie de la discussion qu'on avait un peu avant de commencer l'émission, sur le fait que le débat, en particulier, hélas, dans la gauche française et européenne, c'est de dire, est-ce que la Chine est capitaliste ou socialiste ? Et moi, ma réponse, c'est de dire, c'est pas intéressant poser comme ça, parce que c'est une espèce de match entre deux systèmes. Il y en a un qui va gagner, l'autre qui va perdre. C'est une espèce de combat de boxe sans intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, ils ont décidé d'avoir un système de sécurité sociale. Ils ont pris des exemples dans ce qu'il y avait de plus pointu ailleurs. C'est pour ça que je parle du système de sécurité sociale français, parce que lui, il y a des directeurs de caisses primaires d'assurance maladie qui ont passé des mois à leur expliquer comment ça fonctionnait, etc. Y compris peut-être même ce qui fonctionnait moins bien qu'en 45. Tout ça, ils l'ont compris et ils le font. Et ils le font à l'échelle de la Chine. C'est-à-dire, ils le font, ils ont mis 12 ans pour y arriver. Mais ça y est, c'est couvert. Et comme, effectivement, en plus, avec les salaires que je vous ai indiqués, donc 580 € et 1 080 € pour un employé, avec des prix donc, qui sont inférieurs, le repas au restaurant moyen, c'est 6 €. Le ticket de métro, c'est 69 centimes. Bon, effectivement, il y a un écart de prix et donc de niveau de vie. Et donc, on peut... Et l'article italien sur lequel je m'appuyais disait, après tout, on dit que c'est des salaires à la chinoise. C'est pas vrai. On n'est pas mieux payé, pas moins bien payé qu'eux. C'est intéressant à suivre parce que ça veut dire aussi qu'est devenue l'économie chinoise et pourquoi elle a pu faire ça. Elle a pu faire ça parce qu'effectivement, ils sont arrivés à un niveau technique et de développement industriel qui leur permet d'avoir des produits plus chers, donc de payer des ouvriers mieux formés dans des secteurs qu'ils ont définis. Et donc, le fait que nous croyons encore, beaucoup de gens ici croient encore que les produits chinois, il y en a partout, parce que les ouvriers chinois sont payés au lance-pierre. C'est pas tout à fait vrai. Ils sont payés dans des boîtes qui sont modernes. Il y a beaucoup plus de robots dans les industries chinoises qu'il y en a chez nous, par exemple. Ils ont des formations. Et puis, ils sont soutenus dans leur activité socialement. Ils ont ce qu'il leur faut au point de vue de toutes les couvertures sociales. Ça donne un autre caractère au débat. Alors, je vais aller un peu plus loin. Parce qu'il faut revenir au point de départ. Quand, en 2000, la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce, les États-Unis ont applaudi, puisqu'ils pensaient que c'était la suite directe de l'opération Nixon de séduction de 1972. Ça y est, on les tient. Ils viennent manger sur le marché libéral, on va les tuer. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, et c'était effectivement le calcul des Chinois, c'est de dire, à l'époque, les salaires étaient bas. C'est vrai, en 2000, les salaires étaient plus bas. Donc les industriels, en particulier des États-Unis, mais pas que, il y a Peugeot et d'autres qui se sont installés là-bas, se sont dit, on va profiter des bas salaires chinois et on va mettre nos nouvelles usines, et comme ça, on assurera la couverture de notre marché national, états-unien ou français ou allemand, avec des produits sous notre marque, mais fabriqués avec le salaire chinois. Ça, c'était vrai en 2000, mais 20 ans plus tard, c'est plus tout à fait vrai, et les Chinois ont appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques, ils ont maintenant des entreprises qui sont capables de faire toutes seules, et on en arrive au moment où le capital occidental, qui trouvait que c'était une bonne affaire, dit « Ah, c'est moins intéressant, parce que là, il faut aussi leur payer la sécurité sociale ». Alors, imaginez, mettez-vous dans la tête de l'investisseur états-unien qui arrive pour installer une usine à Shenzhen ou à Tianjin. Il va regarder, on va lui dire, ah ben oui, mais monsieur, attendez, il y a la sécurité sociale. Hein, vous devez 70% de cotisation sur les salaires. Mmh. Il va ouvrir des grands yeux, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben oui, mais ça, c'est, monsieur, c'est un peu de socialisme. Oui, si vous n'aviez pas compris tout à fait. Hein, il va dire, mais moi, je ne paye pas ça, etc. Et donc, il y a une espèce de... C'est plus qu'un affrontement entre deux puissances qui se jalousent l'une l'autre. On a un système qui fonctionne, qui s'est tracé un chemin, qui avance progressivement sur ce chemin, et puis l'autre qui découvre qu'il est un peu nu. Hein, le roi est nu, c'est-à-dire, ah ben oui. Et d'ailleurs, il faut savoir que s'il y a tant de grèves, je le disais aux États-Unis, c'est que les salaires, ils sont bas. Et qu'en plus, quand on veut se payer une couverture santé, on se ruine. Et donc, on n'a pas simplement affaire à une volonté de puissance de M. Xi Jinping par rapport à M. Biden. C'est beaucoup plus profond que ça. On a affaire à une perspective de développement d'un système socialisé par rapport à un système capitaliste ultra-libéral, ce qui est le cas. Est-ce qu'on voudrait ? Alors, c'est un choix qui se pose non seulement aux Chinois et aux États-Unis, mais qui se pose à nous exactement dans les mêmes termes. Exactement dans les mêmes termes, puisque nos gouvernements actuels, hyper libéraux, veulent aller dans le sens de on casse la sécurité sociale, on casse le système de retraite, on privatise tout ça. C'est-à-dire ils veulent copier un modèle qui est en crise. C'est ça aussi qui va se jouer. Alors, les élections présidentielles vont être peut-être d'une tristesse absolue parce qu'on n'entendra pas de choses intéressantes dans les débats. Mais les vraies questions, elles sont là. C'est-à-dire quel est le système qui est en projet dans la tête des uns et des autres ? Qui s'expliquent, qui disent, effectivement, il y aura plus de sécurité sociale, au moins de sécurité sociale, tout sera, rien de plus ne sera plus gratuit. Bon, mais vont-ils le dire? Je ne sais pas sûr qu'il l'est, mais c'est ça les vraies questions. Macron, jusqu'à présent, n'a pas beaucoup parlé dans le sens de ces choses-là. Il annonce des projets de verdissage de l'économie en 2030, des choses comme ça, mais il ne parle pas de la vie quotidienne des Français, de ce qui sera à leur charge. Les idées qui circulent sur une nouvelle sécurité sociale, c'est plutôt une espèce de service minimum, pour ne pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas soignés, mais pas plus. Avec ben, ceux qui paieront plus, auront plus. Donc on est dans la logique libérale. Donc on est bien face à un choix de civilisation de longue durée qui se pose, que la Chine pose très clairement, en disant, ben, moi, j'arrive à fonctionner comme ça, hein, j'arrive à vendre des produits, j'arrive à maîtriser des techniques de pointe, et j'ai un système de sécurité sociale qui marche et qui
sans
est général.
Compter les logements,
Tout à fait, il y a une aide au logement dans la sécurité sociale. Tout à fait, il y a une aide au logement. Voilà, donc ça c'est un débat pour 2022 et pour la suite, parce que j'espère que ce débat va émerger dans les débats pour les élections présidentielles et qu'on parlera pas simplement du confinement et des cas contacts. Parce qu'effectivement, bon, on a déjà beaucoup donné, on aimerait avoir des visions sur l'avenir plus importantes et plus décisives sur l'orientation générale. C'est pas fait. C'est d'autant moins fait que, et j'en viens à un petit document qui a été établi par le mouvement de la paix, auquel je tire mon chapeau pour l'occasion, au propos du budget militaire de la France, avec l'Assemblée nationale a adopté le budget pour 2022. Et donc, je vous lis quelques extraits de ce texte. Le budget 2022 voté par l'Assemblée nationale traduit en matière de défense les orientations de la loi de programmation militaire. Alors vous savez que c'est très, très astucieux, les lois de programmation. C'est-à-dire on fait passer en début de mandat une loi de programmation sur 5 ans. Et après, de toute façon, le Parlement, tous les ans, est obligé de dire qu'il exécute la loi de programmation. Donc il a une liberté de manœuvre quasi nulle. Et donc, ce que la tribune quotidien des affaires et quotidien patronal, la tribune dit que pour la quatrième année consécutive, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, la trajectoire budgétaire, comme c'est joliment dit, est respectée. Le budget de la mission défense doit en principe augmenter de 1,7 milliard d'euros pour atteindre le niveau inédit de 41 milliards en 2022, soit une hausse de 7,7 milliards par rapport au budget 2017. Alors 2017, c'est pas gratuit, c'est l'arrivée de M. Macron. Alors, passer donc de 33 milliards à 40 milliards, c'est un geste qui est très très significatif et sur lequel on n'a pas entendu beaucoup de commentaires. Et le communiqué du Mouvement de la Paix poursuit, en poursuivant le chemin vers le doublement des crédits consacrés à l'arme atomique en vue de renouveler en totalité son arsenal nucléaire, la France viole l'article 6 du traité de non-prolifération qui prévoit que les puissances nucléaires s'engagent à agir de bonne foi pour le désarmement nucléaire. Alors là, je ne vais pas être méchant au point de dire que les autres signataires se préoccupent de ne pas appliquer le TNP, mais c'est un peu le cas. Mais la France ne fait rien dans ce sens. Et il est vrai que le gouvernement français, ou d'ailleurs, qui dirait ben, effectivement la dissuasion atomique, ça ne sert à rien, ça nous coûte très cher tous les ans, ça mobilise une partie de l'industrie qui pourrait s'orienter vers d'autres activités, ce gouvernement-là ferait un pas dans la progression globale de l'humanité qui serait considérable. Et qui ne changerait pas, et je ne sais pas, parce que ce n'est pas pour ça que la France serait envahie. Hein, parce que la défense d'un pays se fait avec la participation des citoyens, pas en tuant des dizaines de millions de personnes chez les autres. Et je termine avec ce communiqué du Mouvement de la Paix. Avec une telle politique de non-respect de ses engagements internationaux, la France ne peut pas pleinement jouer le rôle diplomatique qu'elle pourrait jouer, y compris pour faire revivre l'accord sur le nucléaire iranien. Alors effectivement, le nucléaire iranien... Alors les Iraniens disent ben, il y avait un accord signé, il n'y a qu'à y revenir. Et les autres traînent les pieds en disant mais il faudrait leur imposer quelques contraintes supplémentaires. Et la France joue un rôle tout à fait néfaste, puisqu'elle dit non seulement on ne veut pas revenir à l'accord tel qu'il avait été signé par tout le monde, y compris par nous, mais on veut y ajouter des dispositions sur les missiles. Hein. Et donc ça, on veut leur dire aux Iraniens, surtout, n'ayez aucune capacité de vous défendre. Il ne s'agit pas d'armes nucléaires, quoi que ce soit. Hein, laissez-vous tirer dessus comme des lapins hein, et on vous aimera beaucoup.
Laurence d'Arabie.
Voilà, comme dit Habib, il joue Laurence d'Arabie. Voilà. Donc c'était l'occasion de rappeler que le budget militaire de la France n'arrête pas de croître, alors qu'effectivement, on sait que les caisses sont vides. Enfin, pas pour ça, les caisses ne sont jamais vides. Ensuite, je regarde leur passé tranquillement. Un mot sur Julian Assange pour vous dire que, comme c'était prévu, donc les avocats de Julian Assange ont déposé un recours en cassation auprès de la plus haute instance juridictionnelle britannique. Donc, effectivement, il y a une possibilité de casser le jugement qui a autorisé l'extradition. Et on sent quand même un premier mouvement international de solidarité avec Assange qui démarre, qui a tardé à prendre, mais ça commence à venir. Et on a donc des appels ici et là. On a l'impression que le déclic est passé. L'affaire Assange a été mise de côté, un peu mise sous le boisseau. Et puis maintenant, c'est en train de redémarrer. Et si effectivement, le recours en cassation d'abord ne va pas se faire sous 15 jours, et donc on peut espérer que la mobilisation va pouvoir continuer. Je rappelle, comme je l'ai toujours dit, que Assange n'est coupable de rien. Et j'ajoute, ça c'est très nouveau et ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il s'est constitué aux États-Unis un collectif contre les drones tueurs, alors qui est basé sur des associations qui existaient déjà, qui s'occupaient un peu de défense des droits de l'homme, etc., et qui ont dit, mais attendez, alors c'est bien joli de dire, il n'arrive plus de ce qu'on appelle les body bags, vous savez, quand un soldat des États-Unis est tué sur un front extérieur, on le ramène avec le drapeau américain sur le cercueil et tout, on le met dans un sac, etc., c'est ça le body bag. Et ça, ça passe mal dans l'opinion des États-Unis. C'est bien joli de dire, on a tué des sauvages ici et là, mais les cercueils qui reviennent, même si comparativement, il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre de morts dans le camp d'en face, c'est dur à passer politiquement et ça rend un peu impopulaire ici et là dans les familles. Et donc, effectivement, le drone tueur est arrivé comme une bénédiction dans cette politique-là. C'est-à-dire, en fait, pouvoir assassiner n'importe qui, n'importe quand, sans qu'il y ait de mort du côté des États-Unis. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que je fais le lien avec Wikileaks et Julian Assange. Les meilleurs moments des fuites de Wikileaks, c'est les moments où il a diffusé des bandes vidéo où on voit des soldats des États-Unis dans un hélicoptère en train de cibler des gens qui sont par terre, en train de sortir de leur voiture et de discuter entre eux, et qu'on leur dit « c'est eux ». C'est-à-dire qu'il y a sur place un type qui donne du renseignement. Je confirme, c'est bien monsieur XY. Et donc, le monsieur, dans son hélicoptère, appuie sur le bouton et l'autre est mort. Alors, il y a des bavures, on tue une famille, comme ça s'est passé à Kaboul au mois d'août, etc. Mais au fond, donc, il y a une espèce d'impunité, c'est-à-dire qu'on peut tuer sans qu'il y ait de poursuite. On a simplement obéi à un ordre, on a tué n'importe qui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon. Alors, la nouveauté, c'est qu'il y a aujourd'hui un mouvement aux États-Unis contre les drones tueurs, en disant assez d'être les assassins sur toute la planète, avec l'impunité garantie par le fait qu'on n'a rien vu, on n'a rien compris, on ne sait même pas qui est mort. Ça, on nous a dit tirez là, on a tiré là. C'est plus la guerre, c'est plus la guerre, c'est une espèce d'assassinat de masse avec l'impunité quasiment garantie.
Bon. Trump a fait ça avec le général Soleimani.
Voilà, pareil, effectivement. Alors ça peut être simplement un anonyme ou une famille qu'on va tuer, comme c'était le cas à Kaboul, là, où on a tué une famille parce que c'était une erreur de tir. Hein. Et voilà. Trump a fait ça. Quand Trump a décidé de liquider le dirigeant des gardiens de la révolution iranienne, il a donné l'ordre, effectivement, le monsieur a été assassiné par un drone. Ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a une évolution de l'opinion des États-Unis en disant, mais au fond, nous sommes une puissance guerrière qui ne pensons qu'à ça. Et ça a un écho avec la situation sociale et économique de la grande majorité de la population qui dit, mais les affaires vont mal, il n'y a pas de travail, on n'est pas protégé contre l'épidémie quand on va au travail, etc. Et tout ça se remet en question progressivement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une espèce de panique et de tension dans le camp républicain et dans le camp démocrate pour savoir comment ça va se passer en 2024. Parce que là, la situation américaine est mûre. Et surtout, quand se mettent, alors je ne sais pas si comme les journaux italiens, les journaux des États-Unis se mettent à dire, ben voilà le salaire des ouvriers chinois, mais le jour où ils vont s'y mettre, il y aura effectivement des questions de fond qui vont se poser, et il faudra bien qu'elles le soient à un moment ou à un autre. Personne ne veut la disparition des États-Unis, on veut simplement qu'ils ne tuent pas n'importe qui quand ils ont décidé de le faire. Ça, c'était une chose à rappeler. Enfin, oui. J'en ai parlé, je vous ai parlé des Malouines, la Yougoslavie, je regarde mes notes pour ne pas perdre le fil. Voilà, je vous ai parlé de la... Alors, parlons un petit peu de l'Ukraine, parce que ça, c'est assez amusant de parler de l'Ukraine. Parce que, alors, vous avez suivi toute une campagne, y compris dans les grands médias publics français, sur la Russie va attaquer l'Ukraine. Hein bon, ça, alors... Et... La Russie passe son temps à dire, mais moi, je ne veux absolument pas les attaquer. Je veux simplement que vous respectiez les accords de Minsk, hein, qui ont été signés par la France, par l'Allemagne, par la Russie. Donc, respecter les accords de Minsk, c'est-à-dire donner le droit à ces populations des deux républiques dissidentes du Donbass de s'exprimer sur leur volonté de rester dans l'Ukraine telle qu'elle est ou leur volonté d'en sortir. C'est tout. On vous demande rien d'autre. Et effectivement, à Kiev, on ne veut pas entendre ce discours-là. Alors, on a signé, hein, et puis en fait, on ne veut surtout pas que cet accord soit appliqué. Donc ça continue, mais la réponse qu'on a, donc, elle est dans le projet de traité. C'est-à-dire, de toute façon, ils ne seront pas dans l'OTAN. À un moment donné, il faudra bien que la population ukrainienne restante, c'est-à-dire de moins en moins de gens, décide qu'il y en a assez de passer son temps à faire la guerre aux provinces du Donbass, et la volonté de récupérer la Crimée, parce que c'est quand même assez cocasse de dire « Mais l'Occident, la Russie doit rendre la Crimée. » Bon, elle vous dit ça, mais pourquoi vous laissez... Alors, la Crimée, il faudrait qu'elle revote sur le fait qu'elle a voté à 95% pour entrer dans la Fédération russe, mais vous ne laissez pas voter les gens du Donbass. Hein. Alors, d'un côté, le vote est mauvais, de l'autre côté, il y a une interdiction de vote. Donc, on est en pleine incohérence sur la question ukrainienne.
Il vaut mieux aussi rendre le Golan aux Syriens.
Eh bien, tout à fait. Le Golan est, d'ailleurs, pour l'ONU, le Golan est une terre syrienne. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Donc la comédie ukrainienne va probablement durer, encore que la Russie ait fait des gestes en disant que si l'Ukraine devenait raisonnable, c'est-à-dire respecter sa signature, il n'était pas impossible que le transit du gaz russe, la partie du gaz russe qui passe par le territoire ukrainien pour aborder l'Europe de l'Ouest, repasse à condition que l'Ukraine soit respectueuse de ses engagements. C'est-à-dire que si la Russie dit « je fais passer le gaz chez vous, il est destiné à l'Allemagne ou à l'Autriche ou à la Bulgarie », vous le laissez passer, vous ne jouez pas avec les robinets, ce qu'ils ont fait. Donc si vous êtes quelqu'un de respectable, un État qui respecte ses engagements, je peux travailler avec vous, je ne vous veux pas de mal, mais arrêtez de dire que c'est moi qui ai tous les torts. J'ai discuté récemment, je terminerai là-dessus, avec une citoyenne russe qui disait, de toute façon, ils veulent envahir donc l'est de l'Ukraine pour avoir une ligne de passage directe depuis la Russie jusqu'à la péninsule de Crimée. Alors, regardez la carte. Effectivement, pour l'instant, il n'est pas possible d'y aller. Mais ce qu'elle ne savait pas, et j'étais stupéfait, parce que c'était une citoyenne russe, c'est que la Russie avait depuis construit un pont sur le détroit de Kerch, c'est-à-dire qu'il y a un pont qui relie la Russie à la Crimée, où passe un trafic ferroviaire, routier très très important. Et elle disait, mais non, ils ne peuvent pas. De toute façon, la Crimée tombera dans les mains de l'Occident parce qu'elle est isolée de la Russie. Voilà. Non, mais Yamine me fait signe, ben, on se retrouvera alors. Passez de bonnes fêtes, n'embrassez pas n'importe qui, on ne sait jamais, mais embrassez qui vous avez envie d'embrasser. Hein, et puis on se retrouvera en bonne santé au début de l'année 2022. Et on retrouvera Yamine avec plaisir. À bientôt Yamine, bonne fin d'année à tous. Au revoir.